Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le projet de loi fin de vie présenté en Conseil des ministres ce matin, un texte qui comporte 14 articles, parle d'aide à mourir plutôt que euthanasie ou suicide. Les mots sont choisis, mais le flou persiste, décryptage dans quelques instants. Un nouveau drame à Romans-sur-Isère, un adolescent de 15 ans est mort hier soir, tué par arme blanche dans le quartier sensible de la Monnaie. Lundi, dans le Bas-Rhin, c'est une élève de 13 ans seulement qui a été agressée parce qu'elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan. L'actualité, c'est aussi les prix à la pompe qui repartent à la hausse ces derniers jours. Pourquoi le carburant augmente-t-il? La réponse dans ce journal. Et puis les retrouvailles brûlantes entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes. Un match sous haute tension et sous haute sécurité. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
Avec un temps qui s'améliore ce mercredi après-midi, il devient plus sec et apporte quelques éclaircies, sauf en Bretagne, où des pluies persistent. Les températures iront de 13 à 17 degrés en général, jusqu'à 20 degrés autour de la Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette agression et cet âge qui interpelle 13 ans seulement. Ça s'est passé dans le Bas-Rhin à Arenheim. Une élève a été molestée par plusieurs élèves de son établissement scolaire parce qu'elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan. Mélina Fachin, vous êtes devant le collège de cette commune de 2000 habitants. C'est bien un motif religieux qui a déclenché cette agression?
Oui, c'est en tout cas ce qu'a déclaré cette jeune fille de 13 ans hier lorsqu'elle est allée porter plainte, accompagnée de son père, une plainte pour des faits de violence en réunion. Elle raconte que lundi, alors qu'elle se trouvait dans un bus en direction de son collège, quatre mineurs de confession musulmane, scolarisés dans le même établissement qu'elle, la prennent à partie. Ils reprochent à cette jeune fille d'origine maghrébine de ne pas respecter le jeûne du Ramadan. Et puis quelques minutes plus tard, à la sortie du bus, devant le collège, ils la frappent avant de s'enfuir. La victime est légèrement blessée. Elle présente une rougeur au visage, indique la gendarmerie. Les enquêteurs qui assurent que les quatre agresseurs présumés sont en cours d'identification.
Mélina Fachin dans le Bas-Rhin en direct pour Europe 1. Je vous parle maintenant de ce nouveau drame qui frappe la ville de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Hier soir, un jeune de 15 ans a perdu la vie, victime d'une attaque à l'arme blanche. Alors les faits se sont déroulés dans le quartier sensible de la Monnaie. C'est un quartier dont on avait beaucoup parlé au moment du décès du jeune Thomas, poignardé à la sortie d'un bal de village à Crépol en novembre dernier. Jean-Luc Boujon, vous êtes dans ce quartier de la Monnaie pour Europe 1. Que sait-on sur les circonstances de ce drame ?
Eh bien, cela s'est passé vers 22h hier, rue Frédéric Chopin, en plein cœur donc de ce quartier de la Monnaie. Zacharia, c'est le prénom de ce jeune de 15 ans, a été victime d'un coup de couteau reçu dans la région du cœur. Blessure très grave donc, puisque hospitalisé en urgence, l'adolescent est décédé quelques minutes plus tard. Alors ce matin dans le quartier, certains évoquent une querelle pour expliquer ce coup de couteau. En tout cas, il s'agirait d'un motif tout à fait futile. L'un des amis de la jeune victime croit savoir ce qui se serait passé.
Il est rentré pour séparer une bagarre et s'est fait planter.
Mais planté volontairement ou c'est un coup qui est parti involontairement?
Non, volontairement.
Volontairement?
Ouais, il y a des vidéos qui tournent après. Il y a des gens, ils le voient. Ça fait de la peine. C'était un pote à moi, un copain.
Alors, beaucoup d'habitants de la Monnaie sont effondrés ce matin suite à ce nouveau drame. Également parce que l'adolescent est un jeune sans histoire, explique Salah.
Une personne qui est rangée, qui était dans la classe de ma petite, qui avait un très bon comportement, qui était en apprentissage, il essayait de s'insérer. Donc, je pense pas, là, c'est pas l'image qu'on peut avoir de lui, un délinquant, avec plein d'incivilité. C'était une personne plutôt respectable. C'est vraiment malheureux.
Un profil sans problème confirmé par la maire de Romans, Marie-Hélène Toraval, qui se désole encore une fois de l'hyperviolence qui règne dans ce quartier et aussi de l'inaction de l'État.
Aujourd'hui, je suis triste, mais aussi je suis révoltée. Je suis révoltée parce que les choses n'avancent pas. À chaque fois qu'on a ce type d'événement, c'est considéré comme un fait divers. Je dis haut et fort que ce sont des faits de société et que la réponse qui est celle du gouvernement, je ne peux même pas parler de réponse parce qu'il n'y en a pas.
Alors l'enquête confiée à la PJ de Valence se poursuit à cette heure pour tenter de retrouver donc l'auteur du coup de couteau mortel.
Jean-Luc Boujon en direct de Romans-sur-Isère pour Europe 1. Alors les agressions contre de jeunes adolescents pour des motifs futiles ou pour des motifs religieux se multiplient ces derniers jours. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous choqué? Venez réagir. Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. 13h05 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Et 2 ans après la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la fin de vie a donc été présenté ce matin en Conseil des ministres. Alors, outre le volet sur le renforcement des soins palliatifs, 100 millions d'euros par an pendant 10 ans, le texte ouvre la voie à une aide à mourir pour les maladies graves et incurables. Alexandre Chauveau, si le texte était voté en l'état, qui concernerait-il et quel serait son fonctionnement ?
Eh bien, il faudrait remplir 5 conditions. Être français et majeur d'abord, et donc victime d'une affection grave et incurable, autrement dit une maladie qui ne peut être soignée, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Autre condition, souffrir de douleurs insupportables et réfractaires au traitement. Et enfin, exprimer sa demande de manière libre et éclairée. À partir de là, la demande émane du patient qui doit bénéficier de tout son discernement aux différents stades de la procédure. Le médecin consulte ensuite 2 confrères, un médecin spécialisé et un infirmier. Avant de rendre sa décision, celle-ci est suivie d'un délai de réflexion à l'issue duquel le patient réitère ou non sa demande. Écoutez Catherine Vautrin, la ministre de la Santé.
C'est un modèle français de la fin de vie, une réponse éthique à des besoins d'accompagnement des malades et également à des souffrances qui sont des souffrances inapaisables.
Voilà, et le texte sera donc examiné en première lecture à l'Assemblée le 27 mai.
Alexandre Chauveau à l'Élysée pour Europe 1. Alors, les pathologies neurodégénératives comme la maladie de Charcot devraient être concernées par cette aide à mourir, mais toutes les personnes souffrant de ces maladies n'ont pas forcément envie qu'on leur propose d'en finir. Au contraire, c'est le cas de Caroline qui veut qu'on l'accompagne jusqu'à la fin. Yasmina Katou a recueilli son témoignage.
C'est à 47 ans que Caroline a ressenti les tout premiers symptômes de la maladie de Friedreich. Des difficultés à parler, articuler sont apparues au fil des ans. Des problèmes d'équilibre, marcher sans déambulateur devient compliqué et à terme, Caroline sera prisonnière de son corps, mais son envie de vivre reste intacte.
L'avenir, il sera difficile, mais ce qu'il faut, c'est vivre le présent et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quelque part, beaucoup de gens pourraient nous l'envier. Qui ne rêve pas d'un temps pour regarder ces fleurs qui poussent.
Caroline redoute, avec l'arrivée d'une aide à mourir, que les soignants changent de regard sur les malades.
Je verrai peut-être dans les yeux de mon médecin, est-ce qu'il osera me dire d'en finir, d'arrêter là ? Ce sera peut-être mes proches. C'est ça qui me fait peur.
Souffrante depuis 17 ans, Caroline espère que les soins palliatifs dont elle bénéficie pourront l'accompagner jusqu'à son dernier souffle.
Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1, et j'ajoute qu'à partir de 13h30, on va continuer évidemment à parler de ce projet d'aide à mourir. Si vous souhaitez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Europe 1, il est 13h08.
Et dans quelques instants, évidemment, on se retrouve. On va parler, vers la fin de l'emploi à vie. Le ministre Stanislas Guérini fait bondir les syndicats. Pourquoi le prix des carburants repart-il à la hausse ? Eh bien, on se posera la question. Et puis, PSG-Barça, match sous haute tension et sous haute sécurité. Europe 1 13h vous dit tout dans quelques instants. Restez bien avec nous.
13h-14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. Europe 1 13h. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Il est 13h10 et vous écoutez le journal de Céline Giraud.
Et début mouvementé pour le cycle de concertation sur le projet de loi pour l'efficacité de la fonction publique. Il est porté par Stanislas Guérini qui dit « Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique ». Alors le ministre met sur la table un sujet explosif. Est-ce la fin de l'emploi à vie ? Barthélémy Philippe, cette petite phrase a aussi provoqué l'indignation des syndicats.
Oui, il y a déjà le feu entre le ministre et les syndicats. Il faut dire que Stanislas Guérini ne prend pas de pincettes. C'est un dévoiement, dit-il, de penser qu'au nom de la garantie de l'emploi, on ne peut pas se séparer d'un agent public qui ne fait pas son boulot. Une violente attaque contre le statut des fonctionnaires, selon Céline Verzelletti de la CGT.
Si on n'a plus de sécurité d'emploi, eh bien, en effet, il n'y aura plus de fonction public et plus de services publics.
Christian Grolier de Force Ouvrière est lui aussi très en colère.
Si maintenant l'objectif c'est de dire il faut trouver des fonctionnaires qui ne font pas leur boulot et il faut les sanctionner, c'est un ministre qui a perdu la raison. On ne peut pas dire ça et en même temps le matin dire aux organisations syndicales je veux redonner de l'attractivité à l'emploi public.
En réalité il y a déjà une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dans la fonction publique mais elle est très difficile à appliquer selon le ministère. Dans la fonction publique d'État, 13 agents ont été licenciés pour se dispositif l'an dernier sur environ 2,5 millions de fonctionnaires.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 et la CGT vient justement de déposer des préavis de grève dans la fonction publique pour une période du 15 avril au 15 septembre. Le syndicat vise ainsi directement les Jeux Olympiques et Paralympiques prévus cet été. 13h12 dans cet Europe 1 13h, en cette période de vacances scolaires, et si vous êtes peut-être sur la route, eh bien vous écoutez Europe 1, mais vous avez surtout forcément remarqué que votre plein vous coûte plus cher. Plus particulièrement si vous roulez au sans-plomb 95, plus 4 centimes par litre par rapport à début mars. Margot Faudéré, comment expliquer que les prix à la pompe repartent à la hausse ?
Eh bien, la première explication, c'est ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la driving season, comme le décrit Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières.
À cette époque de l'année, les Américains utilisent davantage leurs voitures, ce qui augmente la demande en essence sans plomb et qui a tendance à faire monter les prix par rapport au gazole.
La deuxième explication, c'est la hausse du prix du baril de pétrole. Il a pris 5 dollars depuis le mois dernier. Une augmentation liée au contexte géopolitique instable, mais aussi aux décisions des pays producteurs de pétrole qui s'entendent pour ne pas augmenter leur production et donc maintenir des prix élevés. Et même s'il est difficile de prévoir précisément l'évolution des tarifs à la pompe dans les mois à venir, pour Olivier Gantois, ils pourraient rester à leurs niveaux actuels.
Le prix le plus déterminant pour les produits pétroliers, c'est le prix du pétrole brut qui est un prix mondial. J'ai tendance à penser que les prix pourraient rester relativement stables. Et si c'est le cas, les prix à la pompe resteront également stables.
Une bonne nouvelle pour l'exécutif, puisque des prix supérieurs à 2 euros le litre déclencheraient le versement de l'indemnité carburant, ce qui n'arrangerait pas nos finances publiques.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Alors si vous êtes fan de foot, PSG, Barça évidemment, ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG qui retrouve son meilleur ennemi, un match bouillant, hein, placé sous très haute sécurité après les menaces proférées par l'État islamique. Jean-Baptiste Marty, les autorités ont considérablement musclé le dispositif de sécurité ce soir au Parc des Princes avec 7 compagnies de CRS mobilisées.
Oui, soit le double de ce qui est habituellement mis en place. Chaque compagnie qui dispose d'environ 80 CRS, soit un total de 500 policiers auxquels il faut ajouter 500 autres forces de l'ordre qui, elles, procéderont à des contrôles aléatoires autour du stade. Un millier de policiers et gendarmes donc au total. Des contrôles aussi renforcés par la présence de la brigade cynophile spécialisée dans la détection d'explosifs. Le tout aidé par des moyens techniques, comprenez des drones permettant de repérer les comportements suspect et signe que la situation inquiète, l'unité d'élite de la préfecture de police, la BRI, est également déployée, des policiers capables d'intervenir rapidement en cas d'incident majeur.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Et en attendant Céline, PSG, Barça sur la pelouse, c'est aussi une affiche de gala.
Avec la possibilité pour les Parisiens de retrouver le dernier carré pour la troisième fois en 5 ans. 7 ans après l'indélébile remontada des Barcelonais au Parc des Princes, ces retrouvailles sont encore synonymes de cauchemar pour les supporters parisiens, Martin Lange.
Oui, c'était le 8 mars 2017. Sergi Roberto vient d'inscrire le 6e but du Barça. Le PSG est éliminé. Ses joueurs titubent sur la pelouse. À quelques mètres de là, Luis Enrique, lui, jubile. 7 ans plus tard, l'Espagnol se retrouve sur le banc du club de la capitale, forcément particulier.
Je connais très bien ce club, je connais très bien beaucoup de joueurs. C'est un match très spécial pour moi qui représente beaucoup au niveau émotionnel. Mais je crois qu'avec l'expérience que j'ai, je suis plus que préparé pour surmonter ce genre de match.
Du côté du PSG, seul Marquinhos c'était déjà là, mais même ceux qui évoluaient loin de Paris ressentent cette rivalité. Danilo Pereira.
Ça donne un peu des citations, un peu des spéculations. Je pense que c'est un match spécial aussi. Les deux clubs sont deux clubs de niveau mondial. Personne ne veut perdre cette match.
Alors bien sûr, ce Barça version 2024 n'a plus rien à voir avec son prédécesseur. Il ne compte plus dans ses rangs des joueurs de la classe de Messi ou Neymar. Mais attention aux enfants de Xavi, le surnom de cette nouvelle génération ultra talentueuse, avec en tête de file Lamine Yamal, 16 ans, est déjà présent comme le futur Messi.
Martin Lange pour Europe 1, les 13h16, comme chaque jour, un point sur les marchés avec vous, Didier Hameau de boursier.com, et ça frétille un peu aujourd'hui.
Eh oui, ça remonte, le yo-yo continue, hein. Ça baissait hier, ça remonte aujourd'hui, plus 0,6%, 8095 points sur le CAC 40 en attendant les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis cet après-midi. Parmi les valeurs qui se distinguent, Total Energy grimpe de 1,2% et établit un nouveau record boursier historique, 68 euros, dans le sillage de la fermeté des cours.
cours du pétrole, on en parlait tout à l'heure. 90 dollars le baril aujourd'hui, au sommet depuis 6 mois, depuis octobre dernier. Donc Total Energy au plus haut, 68 euros. Ailleurs, ça monte doucement. Milan, plus 0,7%. Francfort, plus 0,6%. Madrid, plus 0,5%. Le CAC 40 en hausse de 0,6%. Donc 8095 points.
Didier Hameau de boursier.com, merci beaucoup. La météo maintenant avec vous Géraldine Hamon. Un temps plus calme mais quelques pluies qui persistent.
En effet Céline, car sur la Bretagne et la Normandie, le ciel reste couvert et de faibles pluies vont tomber. Ce sera aussi nuageux dans les pays de la Loire et dans les Hauts-de-France. Il va neiger sur les Pyrénées à partir de 1600 mètres et sur les Alpes du Sud frontalières à partir de 1500 mètres et 2000 mètres en fin de journée. Sur le Sud-Ouest, les éclaircies s'élargissent mais quelques petites ondées circulent au sud de la Garonne et le ciel est variable de la Côte d'Azur à la Corse où quelques averses parfois orageuses tomberont par moments sur l'île de Beauté notamment. Le soleil, lui, est plus généreux sur un bon quart nord-est du pays autour du golfe du Lion, mais Mistral et Tramontane vont souffler assez fort jusqu'à 100 km/h. Les températures sont légèrement en hausse comparées à hier. Il fera 11 degrés à Saint-Etienne, 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, on attend 13 à Brest et Clermont-Ferrand, 14 degrés à Caen et Lyon, 15 à Toulouse, 16 à Rouen, 17 à Nice, Ajaccio et Paris, 19 à Montpellier jusqu'à 21 degrés. À Toulon. Et demain, des nuages seront encore présents sur la moitié ouest et les températures, elles, continueront à grimper. Et normalement, la fin de semaine et le début du week-end devraient être plus beaux.
Merci pour ces bonnes nouvelles, Géraldine Hamon. 13h18, on est ensemble jusqu'à 14h, chers auditeurs d'Europe 1. Et on vous attend dans quelques instants avec la journaliste Charlotte Dornelas et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech. Eh bien, on va décortiquer l'actualité. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Ce nouveau drame à Romans-sur-Isère, cette jeune fille agressée en Alsace sur fond religieux, le projet de fin de vie, le torchon qui brûle aussi entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Tout ça et plus encore juste après la pub. À tout de suite.
Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21, 13h18, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 jusqu'à 14h. Et avec vous pour décrypter l'actualité, Céline, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech.
Bonjour à vous deux, bienvenue à bord.
Bonjour.
On va évidemment, comme chaque jour, décrypter l'actualité. Il y a de quoi faire aujourd'hui. On va commencer, malheureusement, j'ai envie de dire, par ces agressions ultra-violentes entre jeunes qui se poursuivent. Près d'une semaine après la mort du jeune Chemseddine, passé à tabac à la sortie de son collège à Viry-Châtillon, un adolescent a été tué par arme blanche mardi soir à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Alors, deux éléments interpellent, une fois encore, l'âge, 15 ans, et le lieu, Romans-sur-Isère, Georges Fenech, le quartier de la Monnaie, très sensible, célèbre, tristement célèbre.
Oui, depuis l'affaire de Crépol, s'en souvient.
Absolument. Et voilà, l'âge, le lieu, voilà, c'est cette ultra-violence,
absolument,
ça interpelle.
Ultra-violence des jeunes, 15 ans, 14, 15 ans. Dans le Bas-Rhin encore, j'ai vu
on
ça.
En parlera dans quelques instants.
On en parlera, une agression. Je crois qu'on comptabilise à peu près une quarantaine d'agressions au couteau par jour aujourd'hui en France. Même plus que ça, non, une centaine. Je crois que c'est 40 000 par an. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une délinquance des mineurs qu'on ne maîtrise plus. Il faut quand même s'interroger. Et quand j'entends les propositions qui sont faites hier par le garde des Sceaux, je ne suis pas du tout convaincu qu'on prend vraiment la mesure de ce qui se passe dans notre pays.
Quelle proposition fait-il concrètement ?
La proposition, c'est de dire en réalité, on va condamner les parents des travaux d'intérêt général. Alors, outre que ça existe déjà dans notre code, que les juges ne l'appliquent pas plus que les peines qui sont prévues d'emprisonnement, d'ailleurs quand il y a des carences éducatives, les juges ne l'appliquent pas. Et puis la nouveauté, c'est quoi ? C'est de verser 100 ou 200 euros à une association citoyenne. Enfin, vous imaginez le... Non, il faut développer un programme totalement de rupture, avec des courtes peines d'emprisonnement, des peines planchées, des comparutions immédiates, des constructions de places pour mineurs, des constructions de centres éducatifs fermés. C'est cela qu'il faut faire et qu'on n'a pas fait en 2021 lorsqu'on a réformé l'ordonnance de 45 avec un nouveau code pénal des mineurs qui est, de mon point de vue, encore plus laxiste que ne l'était l'ordonnance de 45. Alors, il y a un problème.
Sans responsabiliser les parents, donc. Ouais.
Il faut, mais responsabiliser les parents, c'est d'abord, par exemple, instaurer une mesure de tutelle aux prestations familiales et sociales.
Voilà, ça c'est
vous n'éduquez pas, vous ne surveillez pas vos enfants. 12, 13 ans, ils sont dans la rue à des heures indues. Eh bien, on va gérer l'éducation nous-mêmes. Et donc, on va préempter vos prestations. on ne veut pas le faire. Manifestement, on ne veut pas le faire.
Charlotte Dornelas.
Mais c'est vrai que la réforme qui avait été faite, simplement pour dire pourquoi elle est pire, en effet, de l'avis de beaucoup de pédopsychiatres, notamment, et ceux qui travaillent auprès de ces jeunes très difficiles, en fait, très exposés à la violence, déjà, en général, et donc très violents eux-mêmes, c'est que, simplement, en gros, ils passent devant la justice deux fois. Une première fois, immédiatement, en tout cas, le plus rapidement possible, pour que la justice leur dise s'ils sont coupables ou pas des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Et ensuite, vous avez un délai. Et à la fin de ce délai-là, on vous dit voilà la peine que vous allez avoir en fonction du comportement que vous avez eu pendant ce délai.
Un délai d'un an, je
crois. Oui, c'est ça qui est prévu à 6 mois initialement.
Un an, vous imaginez un an plus tard.
Qui avoisine un an. Donc à cet âge-là, justement, les pédopsies vous disent il faut une butée. Et c'est le mot de Maurice Berger qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il dit il faut une butée immédiate, même si la peine est courte, il faut qu'elle soit immédiate. Il faut que la sanction suive directement l'acte qui est posé et surtout qu'elle ne soit pas relativisée par un éventuel comportement après l'acte qui a été posé, parce que c'est pas le comportement général qu'on punit, c'est un acte en particulier. Il faut, parce que certains jeunes ne comprennent même pas, et on le voit dans le déchaînement ne comprennent même pas la gravité des actes qu'ils posent.
Parce que là, c'est sans doute pour un phénomène, enfin un motif très futile, semble-t-il.
Bah oui, on voit parfois, quand bien même le motif serait grave, en fait, s'acharner et tuer un gamin de 15 ans, à l'arme blanche, quand bien même le motif a l'air grave aux yeux de celui qui frappe, ça ne l'est jamais assez pour commettre ce genre de fait.
On doit reposer la question de l'excuse, l'excuse de minorité, qui est à nouveau dans le débat d'ailleurs.
On a Bruno qui nous écoute dans l'heure, qui nous appelle. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous êtes armurier, je le précise, et vous souhaitiez réagir sur ce nouveau drame.
Oui, je crois que vous avez un panel autour de vous de personnes qui sont extrêmement intelligentes et qui viennent de décrire la totalité des problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est un problème qui est extrêmement compliqué parce qu'en fait, tout est dû à une multitude de choses qu'on a laissé partir à volo depuis des années. On a un arsenal législatif qui est phénoménal. Je pense qu'on peut tout punir, on peut tout dire et tout faire pour arrêter cette violence. Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement diffus et c'est tellement établi depuis des années maintenant que ça devient extrêmement compliqué. Donc effectivement, il faudrait une véritable fortune de l'État pour pouvoir mettre en place des reprises de ces jeunes qui n'ont pas compris ce que c'était que la violence ou l'importance de la vie, l'importance de vivre de façon normale, je dirais. Et tous ces jeunes, malheureusement, aujourd'hui, on a toujours 3-4 vies dans un jeu vidéo, il n'y a aucun problème, on va tuer le voisin, on recommencera à le tuer demain, il sera de nouveau en vie.
Donc ce que vous dites, c'est qu'ils sont dans un monde parallèle et ils banalisent la violence, c'est ça?
C'est ça, une violence complètement banalisée. J'entendais tout à l'heure Monsieur Pro qui disait « j'ai peur de ces gens qui se baladent avec des couteaux, etc. » Attendez, on ne peut pas se balader avec un couteau, c'est interdit par la loi. Il suffit d'une palpation, vous vous retrouvez devant un officier de police judiciaire. Si c'est pour aller cueillir des champignons avec une courbe, il n'y a aucun problème, il va vous laisser repartir. Sinon, vous êtes arrêté et vous êtes sanctionné.
Bruno, vous êtes armurier. Vous êtes armurier, pardon, je vous coupe. Vous êtes armurier, je le précise, je le précisais. Est-ce que vous ressentez cette volonté, ce besoin de s'armer, de se protéger en cette période d'insécurité croissante?
Oui. On a de nouveau, je le dis, on a un arsenal législatif de protection de nos citoyens qui est extrêmement bien fait. Il y a plein de gens qui viennent nous voir en nous demandant des bombes lacrymogènes. On n'a pas le droit d'en avoir sur soi, on n'a pas le droit d'en avoir dans la voiture, comme les couteaux, comme toutes ces pseudo-armes. Mais effectivement, de plus en plus de gens viennent demander quelque chose pour se protéger. Les gens ont peur.
Ouais. Bah effectivement, merci beaucoup Bruno pour ce témoignage. C'était très intéressant effectivement de se rendre compte aussi que voilà la population est en train de se protéger comme elle peut. On reste ensemble 13h27. On se retrouve dans quelques instants. On parlera évidemment de cette autre agression où là encore une fois l'âge interpelle, 13 ans seulement, cette jeune fille agressée parce qu'elle ne respectait pas le jeûne imposé par le Ramadan. À tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1,
Le journal permanent.
À 13h31, sur Europe 1 et avec vous, Céline Géraud.
Une jeune fille de 13 ans frappée par 4 adolescents. Elle a été agressée sur le chemin du collège à Arenheim, dans le Bas-Rhin. Les suspects, tous mineurs, lui ont reproché de ne pas avoir respecté le jeûne du Ramadan. L'adolescente, légèrement blessée, a déposé plainte pour violence en réunion. Un adolescent tué à l'arme blanche hier soir à Romans-sur-Isère. C'est dans le quartier de la Monnaie que ce jeune homme de 15 ans, inconnu des services de police, a été tué. La police judiciaire s'est saisie de l'enquête. La mort de Chemseddine à Viry-Châtillon. Deux mineurs placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour assassinat. Au total, ce sont 4 jeunes hommes, dont 2 frères, qui sont placés en détention provisoire, suspectés d'avoir tué Chemseddine, âgé de 15 ans, à Viry-Châtillon mardi dernier. Le projet de loi sur la fin de vie présenté en Conseil des ministres, ce texte relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie, ouvre à de strictes conditions la possibilité d'un suicide assisté. Il est jugé trop tiède par certains, mais dangereux par d'autres. Une commission spéciale se réunira cet après-midi. Le député MoDem Olivier Falorni, très investi sur le dossier, est fortement pressenti pour obtenir le poste clé de rapporteur général. Les préavis de grève pour les JO sont déposés. C'est une annonce de la CGT dans les 3 branches de la fonction publique. Le préavis court du 15 avril au 16 septembre. Le premier syndicat de la fonction publique demande notamment des recrutements pérennes, des compensations salariales, des droits au congé, au télétravail et à la déconnexion. La sécurité a été renforcée à Paris et à Madrid avant les quarts de finale de la Ligue des Champions, PSG Barcelone et Atlético Borussia Dortmund, après des menaces du groupe djihadiste Daesh. Coup d'envoi 21h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, 13h-14h. Vous écoutez Céline Géraud. Et pour décrypter l'actualité aujourd'hui, Céline, sont avec vous Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech.
Et après Romans-sur-Isère, direction le Bas-Rhin, à Arenheim, on vient d'en parler, cette adolescente de 13 ans, prise à partie par 4 élèves mineurs de son établissement scolaire, qui lui reprochait de ne pas respecter le jeûne imposé par le Ramadan. La police des mœurs, après Samara Montpellier, a encore frappé.
Et puis alors, la police des mœurs a 13 ans.
Oui.
Donc qu'est-ce que ça en donnera à 25, enfin, je veux dire, et la police des mœurs qui ne se contente pas en plus de dire ce qui est licite ou ce qui ne le serait pas, mais qui frappe pour faire respecter quelque chose que par ailleurs cette jeune fille a peut-être tout simplement pas envie de respecter. Mais là on sent que c'est à la fois le rattachement par force au groupe. Il faut absolument qu'elle respecte le Ramadan, mais c'est quelque chose malheureusement qu'on a déjà vu et qu'on voit, alors de manière, Dieu merci, moins violente parfois, mais dans les écoles. De plus en plus de directeurs d'établissements qui vous disent qu'il y a une ségrégation de fait dans les cantines, par exemple, avec les tables sans porc, avec porc. Donc c'est vraiment, en effet, une distinction entre qui appartient au groupe. Et donc, si vous êtes déclaré appartenir au groupe par d'autres, vous devez respecter la loi. Et d'une certaine manière, ce qui est arrivé, et qui est bien plus dramatique, évidemment, à Chemseddine, c'est un peu la même histoire, ce qu'on appelle le crime d'honneur, avec un mot... Qui peut avoir l'air gênant, mais
laver la réputation d'une
c'est
famille
ça,
qui
exactement,
aurait été entachée.
Pour protéger la réputation, soi-disant, de leur petite sœur, ils vont jusqu'à tuer un gamin, là encore une fois, de 15 ans. Donc c'est évidemment que ce sont des cas, des cas. Qui était jusque-là individuel, qui se répète quand même avec un rythme qui est objectivement inquiétant. Mmh. Et quand bien même il y en aurait-il qu'un, de toute façon, ce serait abominable.
Non, mais là, en ce moment, c'est tous les jours, toutes les semaines. C'est vrai que la récurrence interpelle Georges Fenech. On l'a dit, l'âge, le motif religieux, cette police des mœurs, cet effet de groupe, avec des jeunes aussi jeunes.
Moi, ce qui m'interpelle, parce qu'on en parle, on le commente sur nos antennes, mais je n'entends pas des responsables religieux de l'islam, ceux qui sont supposés avoir une autorité morale quand même. Je sais bien qu'il n'y a pas de clergé comme dans d'autres religions, je sais bien qu'il y a différents islams, mais c'est quand même au nom de cet islam, même avec ses variantes, que ces jeunes se livrent à des actes intolérables, qu'ils soient des actes de coercition, des actes de délinquance. J'aimerais beaucoup entendre des voix autorisées dans ce pays pour rappeler à la jeunesse qu'ils appartiennent à une religion, mais qu'au nom de cette religion, ils ne peuvent pas ni l'imposer à qui que ce soit, ni en leur nom commettre des actes répréhensibles. C'est ça qui m'interpelle surtout.
Oui. Et vous ?
Ni punir celui qui la quitte. Parce que là, en l'occurrence, c'est la question qui se pose. Oui. Et c'est aussi la question de l'apostasie.
D'apostasie.
Qui se pose partout en Europe. Et c'est pareil. Il y a une chape de plomb sur le sujet qui est quand même incroyable. On n'arrive pas à regarder en face. Alors, certains par lâcheté, d'autres par peur, hein, tout simplement. On n'arrive pas à regarder en face le rapport au religieux, mais surtout à l'autre, à l'altérité, même au sein d'une même communauté initialement culturelle, beaucoup plus que religieuse, on le voit bien. Donc, c'est un sujet. Il faut s'en préoccuper maintenant. C'est déjà bien tard par rapport au nombre de cas qu'on a déjà recensés, mais je veux dire, il faut réagir extrêmement rapidement. Et quand je vois certains responsables qui continuent à noyer le poisson, à relativiser, à nous expliquer que oui, que non, voilà, quand Éric Dupond-Moretti, je prends que cet exemple-là, nous dit il s'agit pas d'un crime d'honneur, il faut l'appeler crime d'horreur. Donc, il lui dit, on est d'accord, mais c'est pas les gens qui utilisent ce mot parce qu'il est utilisé et parce que c'est au nom de l'honneur de leur petite sœur qu'ils ont tabassé à mort ce gamin-là. C'est évidemment pas une manière de qualifier positivement ce qu'ils viennent de faire. C'est simplement que c'est au nom de l'honneur. Donc, c'est sur ce terrain-là qu'il faut répondre en disant, écoutez, en France, c'est inimaginable. Et quand on répète c'est intolérable, c'est inqualifiable, d'abord non, c'est pas inqualifiable, c'est précisément qualifiable. On comprend ce qu'il s'est passé. Et deux, si c'est intolérable, il faut cesser de le tolérer. Cesser de le tolérer, ça commence au moment où on arrive à poser les mots justes sur ce qu'il est en train
Alors
de se passer.
Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour des termes employés par les journalistes qui parlent justement de crime d'honneur en disant que c'est un terme médiéval, chevaleresque et qu'il est totalement inapproprié dans ce cas précis?
Ben non, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il est utilisé. Il y a certains pays dans lesquels le crime d'honneur continue à exister. Il y a d'ailleurs beaucoup de pays dans le monde dans lesquels ça a existé et ils ont été absolument supprimés. Mais il y a des pays aujourd'hui où le crime d'honneur continue à être fait. Quand je dis c'est important d'utiliser les bons mots, c'est pas que je pense que ce soit moi une question d'honneur hein, qui se joue là-dedans. C'est simplement que si ces jeunes garçons, notamment les frères de cette jeune fille, vont d'abord mettre un coup de pression aux amis qui l'entourent parce qu'ils n'ont pas le droit d'échanger avec elle sur tel ou tel sujet. Et qu'ils finissent par aller trouver ce gamin, le fracasser à mort, être capable à 15 ans de le laisser mort sur un trottoir et en plus d'appeler les secours en mentant pour essayer de se protéger eux-mêmes. Je veux dire, ils en arrivent à un stade pour protéger la réputation de leur sœur puisque c'est ça qu'ils évoquent eux-mêmes. Et bien c'est sur ce terrain-là qu'il faut répondre et répondre vite. Et là, pour le coup, faut clairement interroger les parents. Les gamins de 13 ans qui vont tabasser une gamine dans le bus parce qu'elle a mangé pendant le ramadan, l'idée, elle est pas née toute seule. Hein. Et je veux dire, je sais pas ce qu'ils entendent à la maison ou dans leur environnement ou dans la rue, ou je sais pas où traînent ces gamins. Oui. Enfin, ils ont bien entendu ça quelque part. À 13 ans, ça n'est pas tout seul.
Mais d'un mot, moi, je pense que là, on ne voit que la pointe immergée de l'iceberg parce que, évidemment, ça se voit, une agression, un meurtre. Mais je pense qu'à bas bruit, ces filles, notamment, ces jeunes adolescentes musulmanes, subissent des contraintes quotidiennes chez elles, costumes, de respect de ceci, de cela, des modes de vie qui, sans doute, elles sont des jeunes françaises, elles ont envie de vivre comme tout le monde, elles doivent subir un endoctrinement absolument épouvantable, de coercition, d'atteinte à leur propre liberté de jeunes femmes qui ont envie de vivre leur adolescence, leur jeunesse. Je pense que tout cela, il faut voir qu'il y a des souffrances au sein des familles qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne signale que très rarement, mais qui existe véritablement.
Et je reprends l'exemple, vous souvenez-vous du jeune homme qui a assassiné Dominique Bernard. Sa sœur, on avait eu le témoignage de sa mère, sa sœur, via leur avocat, qui avait expliqué que la petite sœur a été brouillée avec son frère parce qu'il voulait l'empêcher d'aller à l'école à partir du moment où elle avait 11 ans, parce qu'elle ne pouvait pas porter le voile à l'école. Donc ce frère-là l'avait empêché. Je veux dire, quand vous accumulez ces témoignages, il y a en effet des jeunes filles aujourd'hui en France qui sont empêchées. Alors moi, je veux bien que le féminisme consiste simplement à libérer des femmes qui sont déjà absolument libres de vivre exactement comme elles veulent et se taire sur celles qui ont besoin précisément de notre aide. Parce que on aurait décidé que leurs frères appartiennent au statut de victime éternelle pour toujours et à jamais. Mais dans ces cas-là, il faut arrêter de se moquer du monde. On n'aide pas les femmes. On aide quelques-unes parce qu'on a décidé qu'on voulait détruire un modèle beaucoup plus qu'aider qui que ce soit. D'ailleurs, ce seul sujet, c'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, quand j'avais lu ce témoignage-là au moment d'Arras, je m'étais dit, mais pourquoi personne ne réagit sur cette gamine, sa mère, qui sont traitées comme des moins que rien par leurs fils et frères. Enfin, c'est complètement dingue.
On les entend pas, les ministres. Selon vous, pas assez les féministes, pardonnez-moi, les féministes
sur ce sujet, vous les entendez ou moi je les entends pas beaucoup. Hein. Vous savez, on a peur, c'est une religion, faut pas porter atteinte. Mais au nom de, vous ne pouvez pas imposer au nom d'une religion des atteintes à la vie des autres dans leur vie quotidienne, en réalité. Si je puis me permettre, je sais que ça va peut-être vous choquer, je retrouve là une forme d'emprise, de dérive sectaire telle que je les ai connues.
Ah oui.
Je ne dis pas que l'islam est bien entendu. Hein. Je dis simplement qu'il y a des dérives au sein de cette religion qu'on pourrait considérer comme amenant à des ruptures. Ce qui caractérise un mouvement à caractère sectaire, c'est la rupture. Rupture avec la société, avec l'éducation, avec le soin, c'est ça. Et là, on voit bien qu'on essaye d'isoler certaines jeunes femmes d'une vie sociale normale, si vous voulez. Hein. Mm. En ce sens, c'est quand même quelque chose d'inquiétant.
13h41, pendant 20 minutes encore, on va évidemment décrypter l'actualité avec vous, 01 80 20 39 21, et avec Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Et je voulais vous parler maintenant de ce projet de loi sur l'aide à mourir, qui est donc présenté ce matin en Conseil des ministres. Les débats doivent débuter à l'Assemblée nationale le 27 mai. Alors, le gouvernement avance, on peut le dire, à pas feutrer sur ce sujet. Elle revendique l'équilibre, mais le texte, on peut le dire aussi, ne satisfait ni ses partisans, ni ses opposants. On va prendre Nicolas, qui nous appelle, qui nous écoute dans le Nord. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, vous êtes avec nous en direct dans Europe 1 13h, merci.
Merci, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Vous souhaitiez réagir sur ce projet de loi sur l'aide à mourir?
Oui, oui, ce projet de loi, il m'interpelle... Et je suis contre parce que je suis à deux titres potentiellement concerné. J'ai un enfant porteur de handicap qui pourra jamais faire valoir son discernement. Il souffre d'autisme et de trisomie 21. Et moi-même, j'ai une sclérose en plaques. Alors concernant mon enfant, si la loi passe, lui pourra pas choisir sa fin de vie. Si sa fin de vie est difficile, douloureuse, il pourra pas. Moi-même, étant atteint de sclérose en plaques, comme c'est pas une maladie mortelle, je ne serai jamais, je vais pas mourir de cette maladie. Par contre, je vais être probablement muré
Oui.
Et je pourrais pas solliciter ça. Alors, vous allez, on va dire.
Vous trouvez que ce projet de loi est injuste?
Oui, il est injuste parce que cette injustice, elle va forcer le législateur à adopter des nouvelles dispositions du genre les personnes qui sont pas dont la pathologie n'est pas mortelle comme la sclérose en plaques pourront quand même se solliciter quand ils jugeront que leur vie est indigne. Et puis pour les personnes handicapées comme mon fils, ça sera leur tuteur ou leur curatelle qui pourra dire maintenant cet enfant se frappe, il se mutile ou cet adulte.
Oui.
Ça devient insupportable et donc voilà. Et on va faire comme en Belgique.
Oui.
Où il y a une dizaine d'années, le premier verrou a sauté et puis de proche en proche, tous les verrous suivants sautent et on finit par accepter l'euthanasie d'adolescents, de personnes dépressives, de personnes âgées sous curatelle qui sont euthanasiées par leur famille pour récupérer des biens. Enfin,
Nicolas, ça vous choque que l'on parle de dignité dans le cadre de ce texte?
Moi, ce qui me choque surtout, c'est le terme de fraternité qui a été utilisé. La dignité aussi, parce que c'est quoi une vie digne? La vie est digne dans le regard de l'autre, et c'est tout. Nulle vie n'est indigne du fait de la souffrance ou de la maladie.
Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Une réaction peut-être, Georges Fenech, Charles Dornelas, sur ce témoignage.
C'est très, très douloureux ce qu'on vient d'entendre, cette situation du père et de son fils qui a toute notre sympathie.
Je pose la question du discernement qui est important.
Oui, bien sûr, le discernement, on l'avait déjà abordé lors de la première loi qui a posé des jalons, la loi Claeys-Leonetti. Mais c'était en fait... À cette époque-là, la loi telle qu'elle était dictée, la possibilité d'administrer des produits de sédation
profonde.
profonde, lorsque la personne était en grande souffrance, etc., on parlait d'acharnement déraisonnable. Voyez-vous. Là, on franchit un palier qui est énorme. C'est plus des produits sédatifs, c'est des produits létaux. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, on va provoquer la mort qui ne sera pas naturelle, mais on va provoquer la mort. Donc le débat va être extrêmement difficile. Il va falloir, je crois que le débat va durer jusqu'au mois de mai de l'année prochaine.
Oui, 27 mai.
Hein, c'est cela. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Très franchement, j'attends un peu les débats à l'Assemblée nationale.
Charlotte Dornelas, je vais vous donner la parole dans quelques instants. On se retrouve évidemment avec vous, 01 80 20 39 21, pour parler de ce sujet très sensible de l'aide à mourir. A tout de suite sur Europe 1.
Céline Diro vous informe chaque jour de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h48, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Europe 1 13h, la suite avec vous Céline Giraud. Et le débat continue avec vos deux chroniqueurs du jour, la journaliste au Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, et l'ancien juge d'instruction, Georges Fenech.
Et on prolonge le débat autour du projet de loi sur la fin de vie, l'aide à mourir, présenté ce matin en Conseil des ministres. Anne-Marie, qui nous écoute à Nancy, nous appelle. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Vous êtes aidante et vous souhaitiez vous aussi réagir puisque vous êtes concernée.
Alors moi je suis concernée de très près. Mon fils qui a 42 ans a la maladie de Charcot depuis maintenant 17 ans. Tout ce que je peux vous dire c'est que tout ce que j'entends autour de la fin de vie me choque assez.
Pourquoi ?
Jusqu'à présent la maladie de Charcot on en a très peu parlé. Donc maintenant, effectivement, il y a quelques malades qui sortent un peu, qui émergent, qui sont connus et qui permettent de médiatiser un peu cette maladie.
Charles Bietri, notamment, en ce moment.
Voilà, exactement. Là, voilà, il y a beaucoup de personnes. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on légifère sur un sujet qui est très délicat. On est vraiment sur du cas par cas. Et la personne qui est intervenue, qui est malade, a tout à fait raison.
Nicolas, oui, qui nous écoute dans le...
Voilà, en disant effectivement que le regard des gens peut changer, en disant, ben voilà, lui, il est malade, il est condamné à plus ou moins brève échéance, et ben voilà, son devenir, il est entre les mains ou des médecins ou de la famille. Et pour moi, c'est intolérable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon fils, il a envie de vivre. On a un entourage exceptionnel autour de lui. On peut pas dire qu'on se sacrifie parce que c'est notre fils et on l'aime, mais on fait tout pour que tout se passe bien. On sait se faire entourer, on sait se faire aider. Et moi, ce que je demande avant tout au gouvernement, c'est de pas s'apitoyer sur ces malades-là. C'est de leur donner de leur vivant des conditions de vie dignes. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'existe aucune structure pour les accueillir. C'est-à-dire que des personnes qui ont 20 ans, que la maladie de Charcot ou une autre maladie dégénérative se retrouve avec des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans et qui sont en fin de vie. Imaginez un peu ce que ça donne pour leur morale, quoi. Mais c'est insensé.
Oui, effectivement. Voilà. Anne-Marie, effectivement, votre témoignage est bouleversant. Charlotte Dornelas, voilà, là, on est dans un cas concret, la maladie de Charcot, qui est effectivement neurodégénérative, qui est donc concernée directement par ce texte de loi.
Et encore, parce que, définir le moyen ou le court ou moyen terme, dans la loi. D'ailleurs, c'est une des questions du Conseil d'État sur le texte de loi. Mais
le pronostic vital est engagé à court ou à moyen
c'est
terme.
Ça,
mais
si
définir
les, c'est une des
la
strictes, soi-disant, conditions, et c'est très difficile de l'établir médicalement, notamment dans le cas de la maladie de Charcot et des maladies dégénératives de manière générale. Moi, ce que j'entends à la fois dans ce témoignage et dans celui de Nicolas précédemment, c'est un affaiblissement, on va dire, du terme de dignité qui est en effet très présent dans le débat public. Et vous voyez que des gens qui s'occupent de leur fils malade, d'ailleurs dans les deux cas, et cet homme qui vous parle de sa maladie, jamais la question ne se pose en fonction de la dignité de la personne que vous avez en face de vous. La dignité est inhérente au fait qu'elle est une personne en face de vous. Et après, il y a la question de la souffrance, de la maladie elle-même et de la mort qui est extrêmement lourde, qui est très difficile, et certaines fins de vie qui sont extrêmement difficiles. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans le témoignage de Nicolas initialement, c'est les deux temps de son témoignage. Il vous dit d'abord, voilà, moi j'ai deux cas, le mien et celui de mon fils. C'est deux maladies qui sont lourdes, deux fins de vie qui sont potentiellement extrêmement douloureuses et je n'entre pas dans le cadre de cette loi. Donc d'abord, ça ne concerne pas tous les gens qui éventuellement auraient une fin de vie difficile et voudraient mourir avant l'heure, on va dire, par le biais de cette loi. Et que dit-il derrière? Il vous dit donc si mon cas n'est pas concerné et mon fils non plus, ça veut dire que les conditions strictes sauteront les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui dans la loi, et c'est d'ailleurs ce que disait Georges, jusqu'à maintenant, vous pouvez soulager les souffrances au risque de la mort, par le biais de la sédation. Demain, on vous dit le vrai changement de cette loi, c'est vous allez donner la mort à un proche, un médecin ou à vous-même, par le biais du suicide assisté. C'est ça le vrai sujet de conversation, de débat, on va dire, qu'il va y avoir dans cette loi. C'est ça le vrai basculement. Et si vous accordez le droit de tuer au nom de la liberté individuelle à choisir sa mort, alors pourquoi il y aurait des conditions ? Qui décide de la liberté qui est autorisée ou pas ?
Il reste la clause de conscience malgré tout pour les médecins.
La clause de conscience pour le médecin qui ne voudrait pas poser cet acte-là. Mais il faudra la clause de conscience, c'est vrai déjà pour l'avortement. Quand vous l'utilisez, vous devez trouver quelqu'un qui fasse l'acte à votre place. Mais donc aujourd'hui, la question, la loi concerne toute la société. Donc est-ce qu'on donne le pouvoir à un tiers, en gros, de donner la mort aujourd'hui ? C'est ça la question qui se pose. Et si on le fait aujourd'hui, on ne peut pas le faire en nous expliquant qu'on le fait de manière extrêmement responsable avec des conditions très strictes. Parce qu'il est évident qu'en raison de l'argument initial, ces conditions sauteront par la simple logique, on va dire, de l'évolution d'ailleurs de cette loi, comme de toutes les lois sociétales de manière générale. Si la décision est individuelle, alors elle le sera de plus en plus, on va dire.
Allez, avant 14h, on va parler maintenant de politique et la question de savoir si Bruno Le Maire va rester ou pas. On se pose la question pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a de l'eau dans le gaz, on peut le dire, au sommet de l'État entre lui et Emmanuel Macron. Et il a été interpellé, Bruno Le Maire, par le député Liotte Benjamin Saint-Huile à propos du budget. Écoutez.
Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu usant d'avoir toujours les mêmes formules. Vous nous faites, avec un peu de mépris, le retour sur nos propositions. Les propositions de super dividendes, de rachat d'actions, c'est pas des propositions bolcheviques. Elles viennent même de vos rangs, de la majorité, à travers le MoDem. Donc à un moment donné, il faut pouvoir les mettre sur la table. Et puis pour vous dire les choses avec un peu de clarté, et comme le dirait le président de la République, ça fait 7 ans que tu es là, Bruno. Il est temps de s'y mettre.
Voilà, Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là. Petite référence à ce que lui aurait lâché le président de la République récemment concernant évidemment sa gestion des finances publiques. En quelques mots, Jean Chouinec.
Non, mais qui peut.
Est-ce qu'il peut rester ? Est-ce qu'il va rester, Bruno
Le Maire ?
Qui peut
croire que la politique économique française se décide à Bercy ? Pas plus que la politique des affaires étrangères ou de la justice. Tout se décide au niveau, dans notre constitution, on le sait, dans la pratique, cette constitution au niveau du chef de l'État. Donc,
il n'est pas en danger pour vous, Bruno Le Maire ?
Le fait de dire « ça fait 7 ans que t'es là », c'est comme lui dire « qu'est-ce que t'as foutu ?» Mais non, j'applique la politique voulue par au plus haut niveau de l'État.
S'il est en désaccord, il peut partir aussi quand même.
Alors, s'il est en désaccord, il a la possibilité de partir. On a le sentiment que là, il envoie quelques petites banderilles là, pour dire « il va bien falloir peut-être que je prenne mes responsabilités ». Et peut-être que derrière, il a un projet politique plus personnel.
Est-ce qu'il a un projet, Bruno Le Maire ?
En tout cas, c'est ce qu'on lit à grosses lignes. Moi, je ne suis pas une spécialiste des arcanes politiques. Je ne suis pas forcément de très près. Vous savez, il y a des journalistes politiques qui décryptent ça avec un génie absolu. Je ne l'ai pas forcément. Mais alors là, pour que je ne vois que ça, moi, c'est que vraiment, ça commence à se voir énormément. En effet, on voit bien qu'il veut et il met en scène le fait de vouloir autre chose que l'Élysée en permanence. C'est pour ça que je disais, si vraiment il est en désaccord, et depuis 7 ans, parce que le fait est qu'il est là depuis 7 ans, si vraiment il est en désaccord, lui peut en effet partir, c'est Emmanuel Macron qui a été élu, jusqu'à preuve du contraire, donc lui peut en effet partir, il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant et il distille très régulièrement ses désaccords avec Emmanuel Macron, notamment là en l'occurrence sur la réaction à avoir après les chiffres donnés par l'INSEE et l'état du déficit
en France. Ce qu'il veut, c'est une loi rectificative.
Lui veut une loi rectificative.
Mais ceci dit, dans sa réponse aussi, il assume entièrement la politique économique.
Oui.
En parlant de réindustrialisation, il a parfaitement appliquer une politique qu'il partageait totalement. Donc sa responsabilité en tant que responsable de Bercy est engagée.
Oui, mais la bisbille, on va dire, n'a pas attendu les chiffres de l'INSEE quand même déjà avant, entre Bercy et l'Élysée, on sentait qu'il y avait des désaccords.
Oui, puis on peut se poser aussi la question de savoir si finalement, est-ce qu'il ne faut pas quitter le navire
Mais pour répondre très clairement, s'il veut avoir une aventure présidentielle, or c'est ce qu'on commence à pressentir, il vaut mieux partir maintenant que dans 2 ans avec un bilan encore pire. Et en plus, si vous partez sur un désaccord avec le président de la République qui a la responsabilité de, des finances, ah bah alors là, c'est Georges Fenech.
Non, mais c'est un grand classique. Hein. Ceux qui ont une ambition personnelle choisissent la bonne fenêtre de tir pour dire, voyez, je prends mes responsabilités, je ne suis pas d'accord, mais moi je vous proposerai autre chose plus tard. Il y en a d'autres. Hein. Monsieur Darmanin a dit qu'après... Après les Jeux Olympiques,
finalement, il a changé d'avis. On a l'impression qu'entre Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire,
la succession est ouverte.
Il y a un peu de voilà du mot dans la corde à nœud. Quoi.
La succession est ouverte déjà. Hein, après les européennes, vous allez voir, tout le monde va sortir du bois. Mmh. Et donc effectivement, il y a ceux qui voudront un parcours plus personnel et se démarquer en créant quelque chose, en soutenant peut-être un autre candidat aussi, mais les jeux vont se dégager bientôt.
C'est ça, à et suivre. On risque de découvrir encore une fois aux grandes dames de beaucoup de Français que personne n'était d'accord dans ce gouvernement qui pourtant travaillait main dans la main. Non, c'est magnifique.
Merci beaucoup Charlotte Dornelas, Georges Fenech pour ce décryptage de l'actualité. Et nous, on se retrouve dès demain, Géraldine, pour de nouvelles aventures.
C'était Céline Giraud sur Europe 1, où chaque jour à 8h-20 dans Europe 1 Matin, vous retrouvez l'édito international de Vincent Hervouet. Vincent Hervouet qui vous offre une analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. Rendez-vous donc demain matin à 8h-20 sur Europe 1. Et en attendant, l'édito international est disponible en replay sur Europe 1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi avec la suite de vos programmes. Christophe Ondelat dans un instant, 14h-15h. On de la traconte sur Europe 1.